On commence de quoi de nouveau ce matin dans Bouchard en parle. J'espère que vous allez apprécier les clashs de Bouchard en parle.
Oh.
Un clash, c'est une expression qu'on utilise plus en France, je l'avoue. Peut-être qu'on trouvera un autre nom. Mais c'est quand deux personnes sont pas d'accord et s'affrontent dans un débat. Moi, j'arrête pas de dire, et là, matin, je vais même m'excuser, j'arrête pas de dire, il y a pas assez de débats dans les médias au Québec. Hein, vous m'avez déjà entendu radoter ça un petit peu, ça fait partie de mes marottes un peu. Il n'y a pas de débat. Écoute, tout le monde en parle, tout le monde est souvent, ils sont tous d'accord. Tu sais, c'est tout est magnifique, tout est merveilleux, puis tout, ah ouais, puis là, ça s'envoie des compliments. Tout le monde lui pense souvent pareil. Ça arrive, il y a des petits débats, mais pas assez. Or, quand je dis ça, là, c'est quoi qu'on fait dans la vie, nous, ici? Ben, on est un média. Ben, pourquoi on le fait pas? Pourquoi regarder les autres? Vous connaissez ça, je suis ça depuis des années. Moi, je parle plus là, de ce qui se passe ailleurs, tout ça, je m'occupe de mes affaires. Alors, si, grosso modo, je m'aperçois qu'il n'y a pas assez de débats dans certains médias et tout le monde pense pareil, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. La campagne électorale, d'ailleurs, dans certains cas, est un bel exemple. Pourquoi on le fait pas ici? Ben là, on s'est regardé, on a dit, on va le faire. Alors, on le commence. Alors, à vous d'embarquer, si vous en avez des débats à nous suggérer. On a établi un certain nombre de sujets où il y a des gens qui, dans la société, pensent pas pareil. On les réunit face à face. Et on fait un montage, parce que je veux pas faire une heure de temps, mais des fois, quand c'est des gens qui sont pas habitués de parler, moi, je veux que ça se fasse le plus naturel possible. Alors, Pascal CV sert un peu d'arbitre. On réunit ces gens-là, qui ont des positions différentes, et on provoque, un peu, en quelque sorte, un clash. Pas dans le but de... C'est pas un combat de boxe, là. Le gagnant doit être l'auditeur. Avec la confrontation des idées, de la discussion jaillit la lumière, a déjà dit quelqu'un. Moi, je crois à ça. Alors bon, trêve de présentation, on se lance à l'eau, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Là, on commence avec ça, sincèrement, c'est un hasard. Pensez pas qu'on a mis ça en ordre, là, ça, c'est le plus important débat au Québec. Ça n'a rien à voir. On commence avec ça, mais on en a d'autres. Et je vous invite à nous en suggérer. Pascal, pour ce premier clash, tu as réuni autour d'une table une féministe et un masculiniste.
Exact. Et ça loin d'avoir été facile hein, de les réunir les deux, parce que des fois, je me faisais répondre par des groupes masculinistes que oui, on va participer avec grand plaisir si c'est l'un de mes collègues qui allait faire en sorte d'être le modérateur de ce débat-là. Et d'un autre côté...
Hey, c'est l'enfer, t'as pas, je veux juste, mais c'est assez cave.
Vraiment, là?
Il y a des masculinistes qui ont refusé le débat parce que c'est une femme qui allait agir comme modérateur puis arbitre.
Exact.
Parce qu'ils pensaient que t'allais prendre parti. Puis
on demandait un collègue.
Hey.
De l'autre côté, des groupes féministes m'ont accusé aussi de comme femme de faire ce débat-là d'idées, de mettre en confrontation, et je cite leurs mots, des terroristes, qu'ils qualifiaient les masculinistes de terroristes, avec des féministes qui veulent que l'égalité et la parité.
Alors, eux autres, ils veulent même pas débattre avec les masculinistes. En partant, c'est des terroristes, des dangereux, des radicaux. Mais bon.
Alors t'as eu
des deux côtés. Des deux côtés, il y a des caves. OK? Honnêtement, les hommes qui ont pas voulu se présenter parce que t'es une femme, c'est vraiment stupide et cave, là. Ça a aucunement sa raison d'être en 2018. Et de penser que les gens qui... Ben oui.
Non, c'est ça. C'est notre producteur qui approuvait avec ça. Fait que, oui.
Non, mais c'est... Et de l'autre côté, penser que les gens qui critiquent les féministes sont nécessairement des terroristes, c'est tout aussi
clair. Ben oui, vraiment.
Là. Honnêtement.
Non, mais les deux côtés. Là.
Alors, voyez que c'est pas fait. En passant, là, puis je dois le dire, Pascal a travaillé fort pour organiser le clash puis monter tout ça, là. Mais le plus tough, c'est d'avoir trouvé deux personnes. Je pense
vraiment.
Que ça y a pris 2-3 semaines.
Ouais.
Le reste, ben, c'est quelques heures quand même, mais bon. Donc, bravo et merci. On va lâcher les caves. Ceux qui ont accepté, c'est qui?
Oui, exactement. Je vais vous présenter Gabrielle Proux, qui est responsable des communications pour la FEMUL, qui est féministe en mouvement de l'Université Laval.
Oui.
Et Jacques Van der Lem, qui est enseignant, chargé de cours à Lévis, dans une université. Mais également, il fait partie de la NCQ.
Alors, c'est quoi la NCQ?
La NCQ, c'est le mouvement pour les nouveaux conjoints, nouveaux conjointes du Québec.
Alors, okay.
On défend beaucoup
les droits de l'homme. Bravo à vous deux. Merci beaucoup d'avoir accepté notre offre. Là. Ce qu'on veut là-dedans, c'est des échanges d'idées. On va le faire avec respect. Regarde, on va présenter le clash. Les auditeurs pourront se prononcer. Merci d'avoir accepté l'invitation du 93.
Oui, exactement. Puis belle collaboration des deux. Alors, on va y aller avec les enjeux qui ont retenu un peu mon attention durant le débat. Par exemple, à la question, quel est le rôle de chacun? Est-ce que les différents sexes prennent trop de place dans leur quête d'égalité, de parité? Est-ce que chacun est à sa place aussi en société? On les écoute.
On ne souhaite pas que la femme écrase l'homme. Ou prennent les gens qui vont dire « Ah, oh, vous prenez trop de place, vous nous écrasez », c'est qu'ils ont peur de perdre quelque chose. De me faire dire « Vous prenez beaucoup de place », ben tant mieux qu'on en prenne la place, on veut être entendu. On veut pas vous écraser, là.
Il n'est pas question de prendre trop de place, mais je crois que ce qui est absolument essentiel, c'est
qu'elles prennent leur place. La meilleure solution peut arriver. Ce ne sont pas les actions militantes comme les FEMEN ou ces exactions dont on voit trop souvent à la télévision, mais c'est plutôt d'organiser des débats et des échanges constructifs au sein de la société sur le rôle de l'un et le rôle de l'autre.
Ça met bien la table, on part tranquillement. Là-dessus, donc, ils ne sont pas si éloignés que ça, là. Gabriel dit, nous, on veut prendre notre place. Puis, effectivement, elles ont le droit. Maintenant, ça dépend du comment, là. Les actions de FEMEN, est-ce que c'est vraiment, pardon, bon pour la cause? Pas sûr.
Non. Ou encore, est-ce qu'on prend trop de place et on va prendre la place de l'homme en société? C'est ce que M. Van der Lem aussi avançait beaucoup.
Ça, je répondrai à ceci, qu'il y a beaucoup de place disponible. C'est pas comme... Dans la société, le débat, là, c'est pas comme une salle de 35 personnes où, à un moment donné, s'il y a trop de monde, ben, les autres rentrent plus, là. Il y en a de la place pour les deux, je pense.
Est-ce que l'un des sexes a un statut privilégié dans la société? Et un des statuts privilégiés qui a retenu l'attention.
La femme a une place différente dans la société.
Qu'est-ce que vous voulez dire par place?
Je veux dire, biologiquement, c'est la femme qui porte les enfants. Là, ce n'est pas du machisme, c'est une réalité naturelle. Il y a, à ce moment-là, dans ces périodes-là, le statut de la femme est différent et doit être favorisé, tout doit être mis en œuvre pour favoriser cette naissance.
Mais qu'est-ce que vous entendez par le statut ou la place? Oui, c'est vrai, c'est les femmes qui portent les enfants. Ça, on s'entend, là? Mais qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que vous voulez dire par « en portant un enfant » on obtient un certain statut, une certaine place?
Mais d'abord, vous obtenez le statut de mère, ce qui est très important.
Mm-hmm.
Hein? Et malheureusement, lorsque cet heureux événement arrive, ben, la femme est contrainte de rester au foyer. C'est une réalité que nous sommes conscients.
Oui, mais c'est vrai qu'au début, l'enfant a besoin d'être près de la mère,
absolument,
clairement.
Absolument.
Par contre, à quel point est-ce que c'est la femme qui doit rester au foyer? Est-ce qu'on peut dire les premières semaines? Mais est-ce que ça doit être les premiers mois? Où est la limite? Je pense que le père aussi peut rester avec l'enfant et faire un bon travail.
Je suis tout à fait d'accord avec vous.
C'est l'opportunité que les deux aient d'aller sur le marché du travail ou de rester. C'est ça qui est important. C'est pas la femme doit rester ou l'homme doit rester. C'est les deux devraient avoir l'opportunité de faire ce que bon leur semble pour le bien de l'enfant également.
Ouais, mais c'est là toute la question. Et là, je veux pas trop. L'échange est bon, mais on s'entend pas, là. C'est, si vous écoutez le Doc Mayhew, on se le cachera pas, le Doc Mayhew pense que 2 ans, la mère doit rester avec son enfant pendant au moins 2 ans. Je pense que Gabrielle aurait pas été d'accord avec ça, là. Elle a dit quelques semaines, puis après ça, si la femme veut aller travailler, il faut qu'elle aille travailler. C'est son point de vue. Alors, t'en as d'autres plus conservateurs, c'est vrai, ils vont dire l'enfant, les CPE, c'est pas correct, en bas âge, puis il faut qu'elle... Alors, dans le fond... Les deux s'entendent que la femme a un rôle, évidemment, aura toujours un rôle spécifique à jouer comme mère.
Oui.
OK, bon, c'est elle qui va porter l'enfant, tout ça. Là où il y a place au débat, c'est... Est-ce que c'est après 5 mois, 6 mois, 1 an, 1 an et demi? Combien de temps elle devrait rester avec l'enfant?
Je pense qu'il peut pas y avoir de règles. Je pense que c'est du cas par cas.
Ouais.
Mais le problème, c'est qu'on peut pas le savoir avant.
Si le Doc Mayhew était autour de la table, il dirait, attention, c'est démontré que séparer les enfants de leur mère en bas âge, c'est nuisible pour les enfants.
Ouais,
Est-ce que ce serait trop de demander à voir ces études-là? Puis je sais qu'elles existent, mais est-ce qu'elles sont contestées? Est-ce qu'elles sont unanimes? Je suis très prudent, là.
Parce qu'en même temps, tu as aussi des mères qui ont pris seulement 6 mois de congé de maternité, dont les enfants réussissent aujourd'hui, puis tout va bien. Fait que
oui,
là,
mais
c'est
là,
sûr que t'as...
Allons-y pas du cas par cas. Mettons que toi, t'en connais une, puis on en connaît, là. Moi, j'en connais qu'au retour d'un congé de maternité, ils sont revenus rapidement, puis tout semble bien se passer avec les enfants.
Mm-hmm.
Mais ça prouve quoi, selon la science? Zéro puis une barre. Faudrait qu'il y ait une étude. Envoyer les enfants au CPE en bas âge. Est-ce qu'à long terme, c'est bénéfique ou pas? Ben, si vous écoutez le Doc Mayhew, il va vous dire non.
Bon, c'est parce qu'il faut que tu aies un long terme aussi pour ça. Il faudrait que tu prennes les enfants au tout début, lorsque les CPE ont commencé, puis regarder aujourd'hui comment ça se passe.
Ouais. Deuxièmement, Gabrielle dit, c'est important, elle dit, l'important, c'est qu'on doit choisir.
Mm-hmm.
Là-dessus, je la suis à 100%. Est-ce que les femmes au Québec ont le choix? Ben, d'aller au CPE, oui. Rester à la maison, on vous donne combien? Comment est-ce qu'on vous donne si vous restez? Mettons que la femme décide qu'elle est d'accord avec Mayhew puis d'autres, puis elle veut rester jusqu'à au moins 2 ans avec son petit. Elle reçoit combien?
Ben, elle a juste 1 an.
Zéro pin bar. Ouais, elle a son congé maternité. Ouais, oui. Mais après, c'est fini.
C'est ça.
Alors que le CPE est là, prêt à l'accueillir les enfants, à les nationaliser, selon certains, et à les prendre.
Et ils ont poussé plus loin parce que M. Van der Lem disait, moi, à un moment donné, avec mes enfants, il a 5 enfants, j'ai voulu rester à la maison et combien de critiques j'ai reçues, combien de regards j'ai reçus parce qu'un homme restait à la maison avec les enfants. On accusait ma femme d'être le pourvoyeur de la famille, il dit, mais pourtant, les deux rôles peuvent être donnés à n'importe quel sexe. Et on continue avec la parité. Hein. Ça fait tellement discuter la parité dans les emplois. Est-ce qu'on veut un 50-50? Est-ce qu'on veut un 80? Ouais, vous comprenez que ça a été quelque chose qui a été grandement discuté. Alors, à quel moment elle va être atteinte, la parité?
Le fait de mettre la parité, le fait, par exemple, d'obliger un gouvernement ou un établissement d'engager moitié-moitié, ça permet un peu de détruire les stéréotypes déjà présents. Dans quelques années, est-ce qu'on aura encore besoin nécessairement d'une règle? Je ne sais pas, mais pour l'instant, je pense que ça incite les gens davantage à considérer les deux parties de façon égale. C'est comme un petit incitatif.
Je n'aime pas le mot imposer. Je dis, doit-on la favoriser? Absolument. Il faut ouvrir les postes aux femmes. Elles le méritent. Elles ont la compétence. Mais il ne faut pas forcer au-delà de la compétence pour attribuer un poste à une femme ou à un homme. Malheureusement, quand vous forcez une parité, vous pourriez favoriser des gens qui n'ont pas leur place.
Je suis d'accord avec vous. À diplôme égal, à compétence égale, bien sûr, si on ne peut pas faire de la discrimination positive, on ne peut pas mettre des femmes juste pour régler le problème puis, tu sais, pas penser aux différentes compétences qu'elles ont. On veut prendre une femme aussi compétente et aussi diplômée qu'un homme aurait pu l'être. Là, c'est pas une question de mettre des femmes pour mettre des femmes.
Ah!
Encore là?
Oui, mais elle a...
Je trouve qu'elle a pas un mauvais point, là. Mm-hmm. C'est ça qui est le fun dans des échanges. Des fois, autant il y a des opinions différentes, quand tu prends la peine de les écouter, ils sont pas si loin que ça.
Oui, mais c'est pas le discours de toutes les féministes.
Parce que le masculiniste dit, il est pour ça qu'on favorise la parité, il veut pas qu'on l'impose et qu'on répare une injustice par une autre injustice. Parce que commençons par le dire, là. Les femmes ont été traitées injustement pendant à peu près toute l'histoire humaine, là, ok, ça à part quelques civilisations, quelques sociétés, là, si vous suivez l'histoire, ça a toujours été injuste. Maintenant, est-ce qu'on répare cette injustice-là en disant bon ben là on met des quotas de femmes un peu partout, puis on va tasser des hommes? Moi j'y crois pas. Et par contre, est-ce qu'à compétence égale, pareil, est-ce qu'on peut favoriser les femmes? C'est ce que la féministe, elle, propose.
Puis je suis contente de l'entendre, cette féministe-là, parce que les groupes féministes aujourd'hui ont mauvaise presse auprès de certaines personnes, parce que comme dans tout groupe, il y a des extrémistes. Et des fois, celles qu'on entend, ce sont peut-être des femmes qui vont aller un petit peu plus loin que la limite là, au niveau du mouvement féministe. Et elle, pas du tout. Je trouve que, en tout cas, jusqu'à date, là, ses propos, je trouve que c'est tout à fait juste. C'est tout à fait équitable envers le masculinisme avec qui elle parle. Puis c'est vraiment pas une extrémiste comme j'ai pu entendre. Là,
parce que moi, je suis en faveur de certaines mesures, mais je sais que l'argument de certaines féministes, bon, vous le donnez, il est pas entièrement mauvais. Garde, les femmes ont été traitées comme des biens meubles. Parce qu'en passant, la considération juridique de la femme au siècle dernier au Québec, c'était encore un bien immeuble, vous savez ça? Mm-hmm. Dans les héritages, dans les testaments, là, les documents de notaire, là, on lisait souvent ceci. Tel individu, tel homme est décédé. Là, il laisse en héritage une ferme, mettons 30 vaches, quelques moutons et sa femme. C'était des fois écrit comme ça. Parce que le statut juridique de la femme n'était pas très, très loin du bien immeuble. Comme un bien, là.
Mm-hmm. Comme les animaux de compagnie.
Jusqu'à il n'y a pas
longtemps.
C'est ça.
Ça ressemblait à ça. Donc, c'est une réalité historique que les femmes ont été maltraitées. Alors, on pourrait dire ceci. Butch, tu viens de dire que pendant des siècles et des siècles, les femmes ont été maltraitées. Ce serait quoi, pendant 20 ans, de tasser un peu les hommes pour réparer l'injustice? Puis, c'est parce qu'on n'a pas à payer la facture de nos pères puis de nos grands-pères. On peut pas sacrifier une génération d'hommes en disant, bon, ben là, vous autres, vous allez passer votre tour pendant 10-20 ans, le temps qu'on rétablisse la position des femmes. Je sais pas si vous me suivez. Mm-hmm. Parce que, oui, sur le plan mathématique, on pourrait faire ça, tu sais. On pourrait dire, pendant 10-15 ans, on va jouer un peu avec ça. Tu sais, c'est pas sur le plan historique, ça sera pas une injustice. OK? Ça veut dire que toutes les erreurs du passé vont être sur les épaules de la génération des hommes d'aujourd'hui. Ça marche pas.
Mais c'est ce qu'elle disait, elle. Au départ, on instaure un 50-50 pour briser un peu ce que la société a... Ce qu'elle dit que mentalement, un chef d'entreprise, par exemple, automatiquement va engager plus d'hommes sans s'en rendre compte en croyant que l'homme est plus compétent que la femme. Elle dit donc, en instaurant un 50-50, ça fait en sorte que, bon, pour le moment, il va y avoir une parité dans les emplois, puis après ça, on pourrait l'enlever lorsque les mentalités seront brisées. Puis après ça, je lui ai posé la question, OK, mais est-ce que vous croyez, Gabriel, qu'il y a, par exemple, sur tous les CV recueillis, si tu as un 50-50, assez de compétences au niveau de la femme et assez de compétences au niveau de l'homme pour avoir un 50-50? Elle croit que oui. Mais de son côté, M. Van der Leyen disait que, c'est peut-être pas assez à côté. c'est de la vraie compétence d'instaurer un 50-50.
C'est là que c'est touché.
Et quand vous dites, c'est drôle, là, il y a des discours de féministes qui sont divergents, on n'entend pas toujours la même chose. Moi, j'avançais à Gabrielle et aussi à M. Van der Lem les réponses que j'ai eues quand j'essayais de contacter des féministes et des masculinistes. Ouais. Et ça a retenu l'attention, ça, parce qu'elle dit, elle s'est défendue, en fait, du fait que les féministes n'ont pas tous le même discours.
Oui, on a le même but commun d'une égalité homme-femme, ça, c'est vrai. Mais comment on va le vivre, comment on va en parler, va dépendre de chaque individu. Puis c'est pas parce qu'une féministe dit quelque chose que ça s'associe à toutes les autres.
Donc vous acceptez que vous ne pas parler d'une voix commune?
Oui, on a un but commun. Oui, souvent, on va être d'accord avec ce que les autres féministes disent parce qu'on vit un peu la même bataille. Mais ça se peut qu'il y ait des féministes très radicales ou qui prennent ça un peu de la mauvaise façon selon certains. Puis ça veut pas dire qu'on va y adhérer nécessairement, là. C'est pas écrit noir sur blanc, là.
Mais je crois justement que cette divergence d'opinion entre les féministes nuise plus à la cohésion de l'ensemble et à la concordance des idées et des actions surtout. Je viens me poser la question, est-ce que le masculinisme que vous aviez évoqué tantôt n'est pas une création en réaction à ce féminisme militant, pour ne pas dire un autre mot?
Et plus radical.
C'est
mais
ça.
Là, elle touche un excellent point. Mais qui est fautif là-dedans? Qui donne la parole? Bon, vous donnez, c'est les médias.
Mais oui.
Vous savez qu'une féministe radicale qui, elle, mettons, elle a des positions sur les hommes, telle, elle va être bien plus payée en matière de cote d'écoute puis de clics que Gabrielle.
Exactement.
Qui semble avoir... Mais toi, j'ai l'impression, Elisabeth, que tu te reconnais en elle le plus. Là.
Oui, pas, pas à tous les niveaux, mais beaucoup plus que certaines que je peux entendre.
Ben voilà, je sais que des fois, tu réagis. Bon, alors, tu vois, mais elle, moi, je la connaissais pas là, jusqu'à aujourd'hui.
Puis ce serait le fun de l'entendre des fois sur certains
même
enjeux.
Même lui, je l'ai pas entendu beaucoup parce que du côté des masculinistes aussi, il faut le reconnaître, il y a des extrémistes, des radicales puis des pas de bon sens.
Et c'est eux qu'on entend.
Dans le débat sur les signes religieux, ça se peut-tu que ce soit la même chose? Je vais juste attirer votre attention.
Oui.
Il y a combien de musulmans au Québec qui ne portent pas de signes religieux? Il y en a plein, là. Plein de femmes ne sont pas voilées. La majorité ne sont pas voilées. La majorité des musulmans, en passant, ne pratiquent pas. La vraie vérité, c'est ça. Là. Ils sont musulmans comme on est chrétiens, nous autres, puis on ne va pas à messe à tous les dimanches. Vous me suivez? Êtes-vous au courant de ça? Or, les médias, là, ces temps-ci, pensez-vous qu'ils vont donner... J'ai jasé hier, moyen avec des musulmans, hier, qui m'ont dit qu'ils étaient d'accord avec la CAQ. Mais vous les verrez dans aucun show à Québécois et à Radio-Canada. Ils ne sont pas payants. C'est plus payant de mettre une femme voilée qui dit c'est épouvantable, je vais perdre ma job, puis là, c'est une catastrophe, puis on me congédie, la CAQ est raciste. Et ça, c'est payant, tabarouette.
C'est spectaculaire.
Ça. C'est spectaculaire. Alors que le musulman qui dit, ou la musulmane, ouais, ça, c'est un compromis acceptable. Regarde, on a le droit au voile dans la rue, on a le droit au voile comme étudiante, ce qui n'est pas le cas en France, je le rappelle. Mais ici, au Québec, vous avez mis la limite aux positions d'autorité, sais-tu quoi? C'est acceptable. D'ailleurs, les musulmans pourraient vous rappeler que dans plusieurs pays d'Afrique du Nord ou d'Europe, c'est déjà le cas. Il y a des règles un peu partout, là. T'écoutes Radio-Can puis la presse ces temps-ci, t'as l'impression qu'on est la première nation au monde à imposer certaines règles. Puis ailleurs, là, ça s'est pas fait. Alors, je prends ça comme exemple. Mais je pense que c'est révélateur.
Et finalement, ben, le mouvement MeToo a fait couler beaucoup d'encre.
Oui.
Je pense qu'on est d'accord avec ça. Ça crée clairement des désaccords, mais surtout au niveau de la justice.
Moi, ce que j'essaie d'amener, c'est un peu le mouvement MeToo. Et bien souvent, pour les femmes qui dénoncent ces agressions sexuelles-là, ça ne va pas en cours où les accusés ne sont pas jugés coupables parce qu'ils n'ont pas assez de preuves ou parce que les femmes n'ont pas assez de moyens. Souvent, les gens ne vont pas nous croire ou vont nous vont dire « Ah, oh, on l'a cherché, etc. » Et ça, c'est vrai dans notre système judiciaire du Québec. Donc, je suis pas d'accord avec vous quand vous dites que les femmes n'ont jamais de conséquences. Je pense pas que les hommes l'ont plus difficile au côté judiciaire.
Une femme n'a pas à justifier ses accusations, même si elles sont fausses. Un homme arrêté est considéré comme coupable pour provoquer l'arrestation de l'homme. Faux ou vrai, elle n'a pas besoin de preuves. Un simple coup de téléphone suffit. Oui, oui.
Non, il y a besoin de preuves.
Non.
Une femme ne peut pas.
Ah, c'est la grosse différence.
Non, non, une femme ne peut pas. Puis il y a plein de cas comme ça, je pourrais vous en sortir.
Mais moi, je pourrais
de
vous en sortir aussi.
De femmes qui vont en cours, mais que, bon, ça n'a pas été filmé. Il n'y a pas nécessairement de témoins si c'est dans une chambre d'hôtel qu'elle a été droguée. Ils ne peuvent pas accuser quelqu'un à tort, entre guillemets.
C'est...
Donc, il y en a plein. C'est... Ils peuvent pas faire ça.
Je suis désolé, mais la présomption d'innocence pour l'homme n'existe pas dans le fait.
Mais je pourrais aller sur Internet vous chercher plein de cas
moi,
de femmes qui ont vécu ça, c'est vrai.
Je vous crois, mais moi aussi, je pourrais aller vous chercher des milliers de cas. Vous verrez des véritables histoires d'horreur. Pourquoi instruit-on un dossier criminel alors qu'on n'a pas de preuves? Pourquoi un homme est déclaré coupable? la présomption d'innocence n'existant plus. Or, c'est un fondement de l'état de droit.
Mais dans ce cas-là, on serait d'accord avec vous qu'on soit homme ou femme.
Ils ont tous les deux un peu raison. Ouais. Les deux, j'ai trouvé ça très bon, cet échange-là. Mm-hmm. Gabriel a raison que dans le mouvement MeToo, tout ça, ça l'a bien révélé. Il y a des femmes qui ne sont pas suffisamment respectées vis-à-vis les tribunaux, la police, puis ont de la misère à se faire croire. Faut savoir, tous les experts le disent, que c'est le crime peut-être le plus difficile à juger. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas de témoins.
C'est ça.
Il n'y a pas de preuves, souvent. Il peut y avoir, dans certains cas, un viol si le lendemain, la femme va à l'hôpital. Oui, là, mais souvent, ça remonte à plusieurs années, puis il n'y a pas de preuves. Mm. Alors là, elle a raison. Mais là, monsieur...
Il y a
raison aussi. Là. La présomption d'innocence pour les hommes accusés d'agression sexuelle, dans les derniers mois, elle a disparu. Les noms sont dans les journaux, les faces sont là. Puis, bien souvent, il n'y a même pas une accusation.
Ben, là, les réseaux sociaux, tu parles des journaux, puis, là, mais il y a les réseaux sociaux. Là,
alors, quand le masculiniste dit « je peux vous en sortir des cas », il a raison. Puis si le féministe dit « je peux vous sortir des cas de femmes qui n'ont pas été crues », puis qui a, ben oui, il y a aussi de l'injustice. Ouais. Là, on est devant, on l'a déjà dit, vraiment une situation difficile.
Mais c'est parce que j'ai l'impression que les deux ne parlaient pas nécessairement de la même chose. Gabriel parlait au niveau judiciaire et j'ai l'impression que M. Van der Lem parlait, lui, au niveau, disons, de la perception publique. Là. Parce qu'effectivement, tu peux accuser n'importe qui publiquement et sa réputation va être terminée. Mais il n'y a rien qui dit que cette accusation-là va se traduire en cour par une...
Non, la police va enquêter avant d'accuser un homme.
Exact.
Par contre, ils vont l'arrêter, ça se peut que les médias l'aient déjà dénoncé même l'arrestation. Fait que là, c'est déjà
le problème.
Ouais, une petite nuance. Mais les deux ont raison qu'actuellement. Puis c'est pour ça, moi, je dénonce un peu ça. Il y a des injustices des deux bords. Les femmes victimes d'agressions sexuelles sont parfois traitées injustement dans le système de justice. Moi, je l'ai assez vu, là. Je l'ai vu, là. C'est pas facile. Mais il y a des hommes aussi, là. Excusez, il y a eu des cas, là. Il y a eu, comment il s'appelle, l'animateur de radio du côté de Radio-Canada à Toronto, là.
Yann Gomeschi,
l'étudiant à l'Université Laval. Et M. Van der Lem en fait partie parce que lui, pourquoi il est rendu dans un mouvement qui est plus masculiniste, c'est que dans sa vie, une ex-conjointe l'a accusé de faits qui n'étaient pas vrais.
Oh,
il a été arrêté devant ses élèves.
Il a perdu
son emploi pendant quelques mois et il a dû se battre en justice pendant des années où il a presque tout perdu. Parce qu'à un moment donné, il a décidé de dire, regardez, moi j'ai été blanchi, pas de problème, mais il faut continuer parce que là, on a un divorce là-dedans.
Devant ses élèves. As-tu moyen de faire ça autrement? C'était-tu obligatoire? Mais voyons donc, je ne savais pas ça.
Ça
explique un peu son militantisme.
Oui.
Là. Et là, il a été blanchi. Mais le mal est fait.
Oui. Mais ça, je suis obligée de dire que les frustrations des hommes et des femmes envers certains dossiers, c'est vrai que les femmes n'ont souvent pas été crues dans les cours de justice par rapport à des agressions sexuelles, mais il faut aussi admettre que dans des cas de divorce, par exemple, du salissage d'un bord puis de l'autre, c'est souvent plus les hommes qui vont payer pour ça. Là. Fait que...
Regarde, c'est toi qui le dis.
Ben, je dis, c'est ça la réalité. Dans les cas autour de vous, regardez, là, dans les cas de divorce et de salissage d'un bord puis de l'autre, des fois, ben, en fait, très souvent, ça va arriver qu'on prenne un bord.
J'ose poser la question. D'abord, vous savez que la justice a été aucunement discutée en campagne électorale, zéro point barre. Les trois sujets les moins abordés, attention, l'environnement, la justice et la culture. Controverse, les médias, on n'en avait que pour ça. En haut égo, les codes d'écoute, on sac du débat. Controverse. Ça aurait été un bon débat. Y a-tu moyen d'inventer de quoi? Y a-tu moyen de réunir des juristes, des avocats, des policiers, la couronne, puis des victimes, ou des accusés à tort, tu sais, faire une conférence? Comment revoir le système de justice québécois? Ça n'a pas été revu depuis quand, en passant? Tout le monde parle de la santé puis l'éducation.
Vrai?
Non, mais c'est les mêmes règles depuis 1000 ans. J'exagère.
T'as des lois, là, par rapport, c'est vrai, dans le système de justice qui n'ont pas été mis à jour.
Comment s'assurer pour que la femme qui porte plainte soit écoutée, respectée, accompagnée? Comment s'assurer que l'homme qui est visé, parce que c'est souvent un homme qui est visé, on s'entend que dans certains cas, c'est l'inverse, mais bon, c'est très, très rare. Allons-y avec l'homme. Comment s'assurer que la présomption d'innocence est là, que son nom ne sort pas de suite? Bon, on va vous donner juste quelques exemples. Est-ce qu'on devrait faire ces procès-là plus à huis clos, jusqu'au verdict? Autrement dit, tu nommes pas l'accusé avant qu'il soit coupable. Ça, côté médias, j'aime pas ça parce que c'est un peu une forme de censure. Mais je pose la question. Est-ce que dans les policiers qui reçoivent la femme, là, quand elle porte plainte, y a-tu moyen que ça se fasse pas comme une femme qui arrive là pour dénoncer un vol? Tu sais, mettons que parce que se faire voler quelque chose à la maison ou se faire violer, c'est le même poste de police, le même petit bureau, le même enquêteur, le même... Est-ce qu'on pourrait mieux accompagner ces femmes-là? Là, je m'aventure d'un terrain que je connais pas, mais peut-être qu'il y a des femmes qui diraient, ouais, on aurait des suggestions là,
mais
sur l'accompagnement.
C'est pas une suggestion du PQ, ça, d'avoir un système de justice spécialement pour les agressions sexuelles? Il y avait un parti, un des quatre,
je me souviens juste de Michel Blanc qui a fait des déclarations contestées sur le web, là, si tu parles du PQ.
Non,
candidat qui a des...
C'est qui le parti?
Non, mais c'était juste ça.
Non, je sais.
Pascal,
non, mais
c'est juste ça qu'on a parlé.
cette suggestion-là, elle est sortie souvent en campagne. Faut que je vais leur donner le crédit. Ah, là, c'est vrai qu'ils en ont parlé. Là.
Ben, y aurait-tu moyen de faire en sorte, compte tenu du fait que ces accusations-là ne laissent pas de preuves, comment on peut mieux gérer ça dans le respect des deux parties? Parce que la femme a des droits, mais on vit dans un système de justice où l'accusé a des droits aussi. Mmh. Actuellement, dans les deux cas, j'ai l'impression que c'est bafoué.
Oui, c'est le Parti québécois voulait créer un tribunal pour les violences sexuelles et conjugales spécifiquement.
Bon, au moins, ils ont eu une idée. Bravo d'avoir eu une idée. Mais on n'a pas parlé de ça. On a plus parlé du candidat là, à Montréal, là, dans le PQ. Là, il avait fait un tweet un moment donné ou un Facebook, il y a 15 ans, je ne sais pas trop, avant même que Facebook existe. Il y avait déjà eu une controverse. Puis le Journal de Montréal a sorti ça, puis Radio-Can en avait un aussi parce qu'il y avait une chasse. Hein. C'est important, la chasse au trophée. Mm. D'après moi, ils se réunissaient le soir, les journalistes là, qui suivaient les campagnes. N'as-tu un, toi? Hey, moi, j'en ai eu trois. J'ai eu un caquiste, puis deux libérales avec des controverses, toi. Hey, moi, j'ai eu une solidaire. J'ai eu un. Sérieux, moi, eux autres, là, la dernière campagne, là, j'espère qu'au prochain congrès de la FPJQ, ils vont se regarder dans le miroir. On fait-tu encore la job en démocratie où on est juste des relayeurs de controverses pour des clics puis des codes d'écoute? Avez-vous un petit peu une fierté? Vous avez le droit de répliquer en passant. Vous pouvez m'appeler ou m'écrire. Souvent, c'est plus...
En fait, c'est un clash Bouchard avec un journaliste.
Prochain clash.
Hey, merci, manquez pas celui de la semaine prochaine.
Ouais, là, honnêtement, j'ai adoré ça, moi. Ben oui, mais il n'y a pas eu de grande flamèche parce qu'on est tombé sur deux personnes qui avaient le goût, je pense, de discuter.
Oui, discussion.
Puis de jaser. La semaine prochaine, là, ça va brasser. Puis dans les autres, dans le futur aussi, mais ça ne me dérange pas, moi. Que le ton monte un peu.
Dans le respect.
Ça brasse.
Dans le respect.
Dans le respect, mais Pascal va toujours modérer ça.
Certain.
Même si tu n'es pas un gars, tu es capable quand même de modérer.
Pascal, pas de.
Je fais allusion aux accusations de masculinistes qui ont refusé Pascal comme fille. On les a dénoncées tantôt. C'est pourquoi j'y fais allusion. C'est vraiment cave.
Ouais.
Pascal a fait une bonne job. Puis elle va être encore... J'en reviens pas qu'en 2018, il y a des gens qui...
Ouais, c'est incroyable.
Je vais donner une entrevue, mais juste à un gars, toute une femme.
Ah ouais. T'entends même pas de m'obstiner. Oh, j'ai ri tout seul. J'ai dit, OK, bonne journée.
Bon, c'est comme t'as fait une très bonne job, Pascal. Puis ne manquez pas les autres clashs et suggérez-nous-en. Qui vous c'est aimeriez ça. Entendre et débattre?
Au 25-2-6.
Le seul clash que je ne ferais pas, c'est souverainiste-fédéraliste, parce que ça fait 45 ans que nos médias biaisés font ça. C'est correct, on l'a entendu, lui.
Droite, on le fait,
on l'a entendu. Là. Moi, je veux avoir...
Autre que politique, s'il vous plaît. Là. Ce serait le fun un peu, des fois, de sortir.
Oui, mais non, mais on annonce-tu un peu les prochains qui s'en viennent? On peut-tu un peu?
Mettons celui de la semaine prochaine.
Vous allez avoir, ça brasse. Vraiment un croyant et un athée.
Une croyante et un athée.
Vous allez avoir un boucher.
Croyant catholique?
Vous allez avoir un boucher puis une végane qui s'en vient aussi.
Oh.
Vous allez avoir... Vous allez faire le fun, OK?